Bonjour à tous. Je suis toujours heureux de venir dans cette communauté. C'est une assemblée voisine de la nôtre, puisque nous sommes à Montigny-Tilleul, Monceau-Marchienne. Je suis heureux d'être là avec mon épouse Laurence et puis aussi notre sœur Elisabeth qui nous a suivis. Elle a voulu venir avec nous et c'est bien. On est heureux de toujours avoir Elisabeth avec, qui est une des doyennes de notre communauté. Elisabeth, elle a une foi extraordinaire. Après tout ce qu'elle a passé dans sa vie, c'est un exemple vivant, Elisabeth, parce que nous, on est toujours... Elle s'est convertie très tard, d'ailleurs, après 60 ans, je pense. Voilà. Et puis, elle a eu 9 enfants, elle a adopté un 10e, elle a été malheureusement... une vie difficile avec son mari, donc elle s'est retrouvée toute seule. Elle a aussi donc 9 enfants, adopté un 10e, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. Combien, Elisabeth? 120, 150? 58, c'est déjà pas mal, hein? Voilà un exemple d'une personne qui a été touchée par le Saint-Esprit dans sa vie. Et puis moi, je suis heureux aussi de voir mon frère Albert. Je ne sais pas si vous connaissez Albert et Brigitte. Qui est avec. Ils sont de l'Assemblée de Lessines. Et ce matin, ils devaient venir à notre communauté, mais comme ils savaient qu'on venait ici, ben, ils nous ont rejoints. Vous aurez l'occasion de rencontrer Albert. Albert, on a passé de bons moments ensemble. Il n'a pas mis son blouson aujourd'hui, parce qu'il a un blouson de cuir, et c'est un motard chrétien. Et on a passé des moments avec Albert et des groupes de motards chrétiens d'Alsace, de la Porte Ouverte, magnifique. Vous aurez l'occasion de rencontrer Albert et inviter-le une fois aussi. Il est pasteur aussi motard. Vous voyez, Seigneur, il voulait porter dans tous les domaines de la société. Avant, on nous disait toujours, il ne faut pas aller là-bas parce que ça c'est du diable. Il ne faut pas faire ça parce que ça c'est du diable. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Maintenant, ouvrons les portes et utilisons tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Puisque dans Timothée, Paul dit, insiste en tout temps et hors de temps, de n'importe quelle manière. C'est même biblique ça. Voilà. En tout cas, je suis heureux de me trouver parmi vous. Encore une annonce. J'aurais dû prendre un roll-up avec. Vous savez, c'est ces panneaux qu'on déroule, mais je ne les ai pas chez moi. Donc, je n'ai pas pu le prendre. Pour vous présenter, juste en 2 minutes, le CFB. Donc, je suis coordinateur avec mon épouse, Laurence, du CFB, cours de formation biblique, qui a lieu cette année, toujours à Genneval, du 21 au 27 juillet, qui est ouvert aux jeunes à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans. Donc c'est un cours de formation biblique. Nous avons 4 couples qui viennent de France, qui sont des formateurs à l'Institut biblique de Genève, dont Philippe Périllat, qui est un planteur d'église. Il a implanté une église à Marseille et il implante une église à Aix-en-Provence et bientôt une autre à Salon de Provence. Donc vous voyez, c'est vraiment un homme efficace qui donne cours sur la Genèse, le livre de la Genèse, à l'Institut biblique de Genève, qui est le moteur de ces cours de formation biblique, cycle de formation biblique. Donc moi, j'encourage les jeunes dans cette communauté, si vous en avez, et je pense, les parents, les responsables, à promotionner ce cours de formation biblique. C'est la 3e année qu'on l'a fait, c'est un cycle de 2 ans. Et je dis aux jeunes, si vous voulez vivre quelque chose de très fort, si vous voulez transformer, si vous, les parents, vous voulez que vos enfants prennent un bon départ dans la vie, envoyez-les au CFB. On a eu des jeunes qui ont fait le CFB, qui ont été bouleversés, transformés. Franchement. Et ce sont des hommes hautement qualifiés, mais avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Alors, les cours de formation biblique, mais pour les jeunes, on parle d'abord, on donne des cours. Ça commence très tôt, 8h, 8h30, et ça finit à 22h. Voyez-vous, c'est entrecoupé par du sport, de la détente, mais on donne des cours, on aborde par exemple le mariage, on aborde la sexualité, on aborde ces choses bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire? On aborde le retour de Jésus-Christ, la grâce, les 5 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Enfin, vraiment dans une ambiance... mais pas école, vraiment quelque chose de super. Et les jeunes qui viennent au CFB, ils repartent vraiment transformés. Et vous avez ici Salomé qui l'a fait en 2 ans. Voyez. Donc voilà, ça vraiment ça situe dans la vie chrétienne et ça permet de nous évaluer, de s'auto-évaluer dans la vie chrétienne. Encouragez le cours de formation biblique. Allez sur le site du camp des Taillis et priez pour le cours de formation biblique. On a vraiment envie de mettre ça en place. Chose merveilleuse, c'est que cette année, parce que nos frères de France veulent que ce soit une équipe de Belges qui enseigne. Et cette année, il y a quatre jeunes, dont un de nos fils, Jonathan, qui va commencer à donner des cours. Il y a Jonathan dans notre communauté, il y a Raphaël et Bartimée de l'église de Champion, et il y a Alex Wautier qui termine son année, le fils de Ruben, qui termine son année à l'IBG, qui est maintenant en stage au Feu. Feu, en France, il y en a 7. C'est le foyer évangélique universitaire. Rien à voir avec le GBU, c'est différent. Donc, Alex va terminer son stage et va commencer maintenant, ici en Belgique, à Louvain-la-Neuve, un feu, un foyer évangélique universitaire. À Lille, où il est en stage, il y a des centaines de jeunes qui viennent la journée, des étudiants qui viennent, comme ça, écouter la parole de Dieu, participer à une soirée, vraiment, une méthode vraiment efficace parmi les jeunes. Voilà. Donc, 4 jeunes vont commencer à donner des cours. Donc, on est en train de mettre en place une équipe de jeunes belges qui vont enseigner, parce qu'ils ont des dons pour l'enseignement. Et il faut profiter de ces dons. Je voudrais remercier les musiciens. Vous avez des dons dans l'Assemblée. Je voudrais remercier les musiciens aujourd'hui. Parce que ça soutient, et c'est aussi biblique la musique. Et puis moi, je me dis que vous avez des dons, et pourquoi pas, parce que chez nous, ça se fait, pourquoi pas 2 ou 3 personnes qui chantent bien pourraient venir devant avec un micro et soutenir la communauté. Un petit groupe de louanges, commencer à 2 ou 3. S'il y a 2 ou 3 jeunes qui chantent bien, qui ont envie de chanter, qui ont ça à cœur, eh bien vous venez, prenez un micro, mettez un micro à disposition, entraînez la communauté dans la louange. C'est important cela. Voilà, j'en termine pour les annonces. Si je dois intituler le message ce matin, je vais mettre un titre un peu original. Je mettrai le chant du coq. Le chant du coq. Vous n'avez pas peut-être l'habitude d'entendre ce genre de titre à une prédication. Le chant du coq. Le chant du coq. Pourquoi ? Parce que dans Marc au chapitre 14, je vais lire au verset 26 quelques versets. Marc chapitre 14. Verset 26, je lis ceci. C'est Jésus qui parle. Et merci Adrien pour ta présentation aussi, ton introduction. C'était très encourageant et très enrichissant. Voilà, Marc chapitre 14, verset 32. Jésus est à la fin de sa vie terrestre. Alors, avec ses disciples, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Gethsémané, le jardin de Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Vous voyez l'angoisse dans laquelle Jésus était. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Si je prends le verset 26 du chapitre 14, j'aurais dû peut-être le lire avant, mais voilà. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre, celui que on vient de dire maintenant, Simon, qui s'était endormi, Pierre lui dit, quand tous, vous entendez ce qu'il dit, hein, Pierre, il faut souligner ça dans la Bible. Pierre dit, mais quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. J'insiste. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre, reprenant plus fortement encore, lui dit, quand il me faudrait mourir avec toi. Oui. Essayons de nous remettre dans le contexte. Hein. Quand il me faudrait mourir, Seigneur, pour toi, je ne te renierai pas. Et, remarquez, parce qu'on cite toujours Pierre, les disciples, tous dirent la même chose. Alors, je saute au verset 66 du même chapitre 14. 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, première fois. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci, il est de ces gens-là. » Et Pierre le nia une deuxième fois. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, toi. Tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations, à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole qu'on vient de lire. Ce Pierre qui s'était endormi après les paroles et la prophétie de Jésus, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante. Parce que c'est le titre du message. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en réfléchissant, Pierre se mit à pleurer. Vous connaissez bien ce passage-là. Hein? Dans les églises, c'est connu. Hein? Que ce soit chez les catholiques, les orthodoxes ou chez les protestants, on connaît ce passage. Je me dis, quand je lis ce texte, je me dis parfois qu'il y a des prises de conscience dans la vie qui sont parfois brutales. Quand la conscience est endormie, parce que c'est possible, et ça arrive que la conscience est endormie, eh bien, il y a parfois des réveils comme ça, brutales. C'est ce que Pierre a vécu. Un réveil brutal. Je vais vous citer quelques exemples de la parole de Dieu. Vous allez voir. Joseph. Vous connaissez bien Joseph, qui a été vendu par ses frères. Genèse, chapitre 37, et même les autres chapitres. Bien des années après, les frères de Joseph, qui ont vendu Joseph, parce qu'ils étaient jaloux de Joseph. Ils sont arrivés en Égypte parce que c'était la famine en Israël pour acheter du blé. Ils sont arrivés là-bas et ils se trouvent en face de Joseph qui lui a monté les échelons parce que Dieu l'a élevé et il est devenu premier ministre en Égypte. Oui, Joseph a été premier ministre d'Égypte. Et quand Joseph interroge ses frères, lui il a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Quand Joseph interroge ses frères, vous savez ce qu'ils disent? Eux qui ont vendu leurs frères. Mais nous sommes des honnêtes gens, vous savez. C'est ce qu'il déclare. Je peux reprendre les textes, mais ça serait trop long. Nous sommes des honnêtes gens. Nous sommes venus acheter du blé. À partir de ce moment-là, Dieu va mettre dans la roue des frères de Joseph des bâtons. Il va leur mettre des obstacles. Ruben, le plus âgé des frères de Joseph, avait dit en son temps à ses frères, « Ne le vendez pas. Ne le jetez pas dans la citerne. Joseph nous suppliait de le garder en vie, mais vous l'avez vendu. Vous l'avez vendu. » Tout d'un coup, vous savez, c'est le passé qui ressort. Le passé poursuit les frères de Joseph. Ils se réveillent brutalement. Leur conscience, à eux, elle était endormie. Ils avaient vendu leur frère, quoi de plus terrible que de vendre son frère. Ils avaient vendu leur frère, ils l'ont fait passer pour mort, et puis ils s'amènent devant Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Mais nous sommes des honnêtes gens. Mais non, ce n'est pas des honnêtes gens. Eux, ils se font passer pour des honnêtes gens. Mais Dieu connaît toutes choses. Ils sont de leur cœur et ils sont de leur rein. Leur conscience, tout d'un coup, est réveillée. Dans le livre des Nombres, il y avait un prophète au drôle de nom qui s'appelait Balaam. Vous connaissez peut-être ce passage. Relisez ce texte. Balaam, mystérieux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il bat son âne. Il donne des coups de bâton à son âne. Une première fois, une deuxième fois. Mais il fait fausse route, ce prophète, Balaam. Il ne va pas dans la direction que Dieu lui a donnée. Et Dieu délie la bouche de l'âne. S'il a délié la bouche de l'âne, il peut délier la mienne. Il peut délier la nôtre. Il délie la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse lui parle. Ce n'est pas la fontaine qui a fait parler premier les animaux. Hein. Ce n'est pas l'âne qui a parlé le premier, c'est le serpent qui a parlé le premier dans la Genèse. Ce n'est pas la fontaine ni Walt Disney. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a fait parler les animaux en premier. Dieu délie la bouche de l'âne. Et tout d'un coup, Balaam voit un ange devant lui. Dieu se sert d'une ânesse muette pour arrêter la folie, la démence de ce prophète. Toutes les circonstances sont bonnes. Hein. Jonas, le prophète Jonas, un prophète rebelle, qui ne voulait pas aller vers les païens, qui ne voulait pas sortir vers un peuple étranger. Dieu l'envoie à Ninive. Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? Dans le navire. Hein? 40 jours, et Ninive sera détruite enfin. Dieu a dû déployer toute sa puissance pour que Jonas puisse comprendre enfin qu'il fallait annoncer le message de la grâce à Ninive, qui était un peuple perdu dans l'idolâtrie. Un peu comme nous aujourd'hui dans ce monde, cette société si belle, si rayonnante, si lumineuse, avec des tas de boutiques, des tas de biens, de l'abondance. Nous sommes dans une société qui donne des biens en profusion. Jonas doit aller dans cette ville de Ninive. Vous le feriez, vous? Allez dire à Ninive, allez dire ici, à Charleroi, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. 40 jours, le compte à rebours a commencé. Et Ninive, vous savez ce qu'ils font? Ils se relèvent d'un seul coup. Et le roi de Ninive se convertit. Et le roi de Ninive se repent. Et la ville est sauvée. Un siècle après, ils vont recommencer. Un siècle après, ils vont recommencer. Comme nous. Hein. On pêche, on demande pardon, mais puis on recommence. Heureusement, on a la grâce de Dieu. On l'a rappelé ce matin. On a la grâce de Dieu. Dieu se sert de qui? De Jonas. Qu'est-ce que Jonas? Un serviteur rebelle? Ce n'est pas un homme soumis, ce n'est pas un homme obéissant. C'est moins que rien, Jonas. Et il se sert de lui. Il peut se servir de nous, hein. C'est la même chose. Il y a un texte qui est impressionnant dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Là, vous allez voir, le réveil de conscience, il est terrible. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne m'écoutez pas moi. Mais écoutez la parole de Dieu, les bien-aimés. Écoutez ce qui est écrit ici dans ce passage. Il est impressionnant ce passage. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit cette parabole. Gardez-vous soin de toute avarice. Ça, il faut le rappeler dans les assemblées. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Je vais souligner quelque chose et je vous demande aussi de reprendre ce texte chez vous et de souligner, vous allez voir. Gardez-vous de soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Quand on regarde dans le monde, On a vraiment l'impression que la vie des hommes, ça dépend de leur bien. Et malheureusement, parfois dans l'Église aussi. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans la société qu'aujourd'hui. Jamais. Depuis la guerre, la richesse, depuis 70 ans, la richesse a multiplié par 10, par 20 dans le monde. Il y a de l'argent. Et il y a de l'argent dans les églises. Et nous sommes si pauvres. Nous sommes si pauvres. Alors, l'avarice, un homme, cet homme, pour lui, sa vie, ça dépend de ses biens. Vous en connaissez, vous ? Moi, j'en connais. Des gens que leur vie est accrochée à leur compte en banque. Leur vie est accrochée à leur compte en banque. Alors, bien sûr, même s'il est dans l'abondance, et il leur dit cette parabole, écoutez bien, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, je vais souligner, que ferais-je ? Que ferais-je, moi ? Que ferais-je ? Car je, regardez bien comment c'est écrit, je n'ai pas de place pour servir ma récolte. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai de toute ma récolte, de tous mes biens, et je dirai à mon âme qui ne l'appartient pas, appartient à votre âme. Vous appartient pas. Et je dirai à mon âme, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu, ah là là, ça sonne hein, comme un réveil. Mais Dieu, il l'avait oublié celui-là. Excusez-moi pour l'expression, il l'avait oublié lui Dieu, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, comme beaucoup de personnes. Et même parfois dans l'Église, mais Dieu, on l'a oublié ou il l'a oublié, lui dira insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ça sera pour qui ? Nu tu es sorti du sein de ta mère, nu tu retourneras dans le sein de la terre. Terrible ce verset. Hein ? Nu tu es sorti du sein de ta mère, nu tu retourneras dans le sein de la terre. Moi ça me fait parfois sourire. Vous pouvez venir chez moi, ma maison, je l'aime, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je devrais un jour la quitter. C'est pas ça le plus important. Les gens sont accrochés à leur bien, à leur matériel, et cette nuit même, insensée, ton âme te sera redemandée. Quel est le réveil de conscience pour cet homme ? La mort. La mort, mais il est trop tard. Lui, sa conscience ne lui parlait plus, lui. Elle ne lui parlait plus sa conscience. Elle était éteinte. On s'habitue hein, au péché. Comme on s'habitue aux mauvaises odeurs. Il m'est arrivé souvent de travailler dans des mauvaises odeurs. Nous étions habitués avec l'équipe de travailler dans des mauvaises odeurs. Vous connaissez cette histoire dans le midi de la France de ce fossoyeur qui doit exhumer un corps. Et bien sûr, lui, il sort un corps qui est enterré depuis plusieurs années. Parce qu'il doit faire une autopsie. Et on installe le corps dans la salle d'autopsie, dans le cimetière. Et puis c'est l'heure du casse-croûte. Les médecins légistes sont là. Mais lui, le gars, il a faim. Il est fossoyeur, lui. Il fait sa journée. Il ouvre sa mallette. Il sort son saucisson. Il sort sa baguette. Il sort son quart de rouge. Et puis il coupe son saucisson. Il commence à manger. Mais ça pue. Le cadavre est là. Et les autres lui disent, mais... Vous ne sentez pas l'odeur ? Ben non, moi je suis habitué à l'odeur. On s'habitue hein, aux mauvaises odeurs. Comme on s'habitue au péché. Et comme notre conscience peut aussi être éteinte, on s'habitue, elle s'éteint tout doucement. Oh, ça ne vient pas rapidement. Hein. C'est insidieux. C'est tout doucement. Sa conscience s'est éteinte. À peine a-t-il fini sa phrase, cet homme, qu'il est écrit insensé, cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Est-ce que vous pouvez affirmer que vous allez voir votre lit ce soir ? Est-ce que vous pouvez affirmer que je vais... Est-ce que je peux affirmer que je vais descendre vivant de cette chair, de cette estrade ? Personne ne peut le faire. Il est temps de se mettre en ordre avec Dieu. C'est aujourd'hui le jour de la grâce, le jour du salut. Vous voyez, pour réveiller les consciences, Dieu peut utiliser beaucoup de choses. Pour réveiller votre âme, Dieu peut utiliser tous les moyens. Une situation inattendue, un âne, un contretemps, la mort. La mort. Je pourrais aussi vous parler de Samson, hein, dans le livre des juges. Hein. Samson, lui, s'est laissé séduire par une femme. Ah, les femmes. Excusez-moi, ma sœur, mais les femmes. Il s'est laissé séduire, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est retrouvé avec les deux yeux crevés. Et pendant qu'il avait ses yeux crevés, qu'il ne voyait plus, qu'il avait perdu sa puissance et sa force, dans Juges, relisez ce texte, il a repris, sa conscience s'est réveillée, parce qu'il s'était laissé séduire. Dieu lui a lui redonné sa force pendant un instant. Voilà quelques éléments que je vous ai donnés, simplement pour essayer de vous mettre dans le contexte de la suite du message, de ce que j'ai à vous partager par après, voyez. De dire que le Seigneur peut utiliser tous les moyens pour réveiller notre conscience. Est-ce que votre conscience est endormie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Et vous, vous le savez. Vous le savez. Mais je reviens au texte. Je reviens au texte. Marc chapitre 14, verset 66. Avant que le coq chante, parce que je vous ai dit que c'était le titre du message, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié. Trois fois. Alors, quel est l'agent de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour réveiller la conscience de Pierre? Un coq. C'est comique, hein? On n'a jamais pensé à ça peut-être, hein? Mais quand on fouille dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu utilise des choses simples. Un coq va réveiller la conscience de Pierre. Un coq peut très bien se servir de nous, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, qu'a-t-il d'extraordinaire ce coq qui est cité dans la parole de Dieu? S'il est cité, c'est qu'il a une raison. Hein. Il a une raison. Qu'a-t-il de si extraordinaire? Ben rien. Excusez-moi, rien. Il n'a rien d'extraordinaire. Il a fait ce pour quoi il a été créé. Pourquoi a-t-il été créé? Pour chanter. Un coq, ça chante. Au lever du soleil et au coucher du soleil. Et il a chanté. Le coq a chanté. Parce que le coq, il croit qu'il fait lever le soleil. Il croit que quand il chante, il fait lever le soleil. Pourquoi le pense-t-il? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, pour faire lever le soleil, je ne chante pas. Le cheval ne hennit pas. Le chien n'aboie pas. Mais le coq, il chante. Mais le coq, il chante. Toute la nature est réglée. Comme du papier à musique. Par Dieu. Vous entendez ça? J'aime observer la nature. Ça vient sans doute de mon éducation avec mon père, qui était bûcheron, et qui aimait beaucoup la nature, qui connaissait beaucoup de choses sur la nature. Observez la nature. Vous n'aurez plus d'excuses pour nier l'existence de Dieu. Il ne faut même pas écouter un prédicateur. Regardez autour de vous, vous allez voir comme la nature, tout est réglé. Ce qui est déréglé, c'est les hommes. C'est les hommes. Souvent. Souvent, c'est les hommes. On ne va pas rentrer dans les détails. Voyez-vous, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'avec Dieu, des choses simples, les plus simples, peuvent avoir une grande importance. J'aime bien les choses simples. Moi, je suis quelqu'un, en général, je me simplifie la vie au maximum. J'essaie de ne pas me compliquer la vie, d'entrer dans des conflits, dans des situations. C'est déjà assez compliqué comme ça. Eh bien, Dieu, moi je pense qu'il fait la même chose aussi. La simplicité du langage. J'aime beaucoup. Nos frères qui font le CFB sont des théologiens, mais avec un langage adapté, un langage actuel, voyez-vous. Donc c'est important d'avoir bien de la connaissance biblique, mais aussi d'avoir un langage simple. Quoi de plus simple qu'un coq qui chante? Quoi de plus simple? Est-ce que Dieu a utilisé autre chose pour secouer Pierre? Non, hein? Non, hein? Le coq, il a fait ponctuellement, journellement, non pas à l'heure, ni à la minute, mais à la seconde. Vous entendez? À la seconde, il a chanté comme ça avait été annoncé prophétiquement par Jésus. Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et c'est au moment où cette femme dit, mais tu étais avec Jésus de Nazareth, toi. Ah, essayez un peu de vous mettre à la place de... de Pierre. Parce que nous, on lit la Bible et puis voilà, c'est bien, c'est beau, c'est romantique, c'est historique. Mais essayez un peu de vous mettre à la place de Pierre. Moi, j'ai déjà essayé une fois dans ma tête. Jésus va être crucifié. Vous savez ce que c'est la crucifixion? Je ne sais pas, mais c'est terrible. On dit que c'est le châtiment le plus terrible, la crucifixion. C'est des heures d'agonie. C'est des morts par étouffement, par noyade, en plein soleil, en pleine chaleur. Pour ceux qui ont déjà vu le film de Gibson, et vous, c'est terrible, terrible la crucifixion. Alors Pierre, il est là, et oh, t'étais avec Pierre, s'il avait dit, j'étais avec Jésus de Nazareth. Il avait une croix peut-être qui lui était réservée. Hein. Il était pris comme un imposteur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait? Il nie. Il a peur. Il a la trouille. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il a peur. Non, je ne suis pas avec. Le coq a chanté à la minute, à la seconde, où cette femme a dit, tu étais avec. Il nia, le coq a chanté. Et puis, il a nié une deuxième fois, le coq a chanté. Le coq a chanté. Voyez-vous, voici plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Le soleil se lève. La parole de Jésus-Christ, qu'on a lu avant. La sensibilité de Pierre, parce qu'il était quand même dans une certaine sensibilité, parce qu'il a pleuré. Vous savez, des larmes. Des larmes, tout le monde peut en verser. Mais des larmes de repentance, ça c'est autre chose. Hein. Des larmes de repentance. L'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a joué son rôle. Même si la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, hein, le Saint-Esprit était là. Le chant du coq. Et puis alors, le regard de Jésus, parce qu'il est écrit que Jésus s'est retourné à regarder Pierre. Et Pierre a pleuré. Il est sorti pour pleurer. Des larmes salutaires. Tant que vous n'aurez pas pleuré sur votre péché, vous n'obtiendrez pas le salut. Pleurer. Pleurer sur son péché. Reconnaître que Jésus est mort à notre place. Voyez-vous, mes bien-aimés, Dieu utilise des choses simples. Simples, je le redis. Une prière, un chant, un message peut tirer un homme de son désespoir. Et il y en a des hommes dans le désespoir, même dans l'Église. Même dans l'Église. J'ai assisté une fois à une rencontre. Le titre, c'était « J'ai même rencontré des chrétiens heureux ». Parce qu'on ne rencontre pas de chrétiens heureux. On ne rencontre pas. C'est le sourire que nous devons avoir. Connaissez je ne sais plus son nom, un athée écrivain français de plusieurs siècles en arrière, qui avait dit en parlant des chrétiens. Je vais être cru dans ce que je vais dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand il voyait les chrétiens sortir des églises, il disait ceci, si seulement ils avaient des gueules de ressuscité. Est-ce que nous avons des têtes de ressuscité? Un ressuscité, rendez compte, il est revenu à la vie. Il est ressuscité, il rayonne de joie. Oui, je sais. Il y a parfois des moments où on est dans la tristesse. Et ça arrive, ça m'est arrivé souvent. Ça m'est déjà arrivé de me regarder dans le miroir et de me dire, mais quelle tête tu fais? Quelle tête tu fais? Voilà, un chant, un message peut tirer un homme du désespoir. Les hommes sont dans le désespoir aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de visites, nous faisons de la relation d'aide avec Laurence et nous voyons plein de personnes dans le désespoir, dans les problèmes, dans les misères, dans la tristesse, des enfants battus dans leur jeunesse, des personnes qui ont souffert parce qu'ils ont été rejetés, manque d'amour. Plein de personnes comme ça aujourd'hui. J'admire ce que Kofi Wos fait. C'est extraordinaire, c'est un don d'aller chercher des personnes dans le désespoir. Nous devrions remplir ce rôle. Tout le monde ne peut pas faire ça, mais il y a d'autres situations, d'autres ministères. Voilà. Voyez-vous, un chant, un message, une prière peut tirer de sa torpeur une famille, une église, un peuple. Un peuple. C'est parce qu'il y a un grand réveil en Angleterre au 19e siècle, qu'il n'y a pas eu de guerre civile. Vous savez ça? Il allait y avoir une guerre civile, comme la Révolution française. Mais suite à des prédications de pasteurs, sur la grâce, que les hommes se sont convertis en abondance, ont changé de direction, et qu'il n'y a pas eu de guerre civile. C'est pas moi qui le dis, c'est parce que tout un peuple est sorti de sa torpeur. Tout un peuple est sorti du désespoir. Nous sommes dans le désespoir. Vous avez déjà vu l'état de notre pays spirituel, de notre Europe, qui a pourtant envoyé des missionnaires dans le monde entier. La Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, pays de la réforme. Pays de la réforme. Vous savez ce qu'ont été les protestants qui ont été persécutés? Quand vous lisez l'histoire, si tu as une montre à ton poignet, c'est parce que ce sont les protestants qui ont créé ce savoir-faire. Et ils ont quitté suite à la persécution, ils sont partis dans des endroits où ils n'étaient plus persécutés. En Suisse, et ils ont emmené l'horlogerie. Aux États-Unis, où ils ont emmené la toile de Nîmes pour faire les jeans qui ont fait le tour du monde. Les émaux. Enfin, des tas de choses, ils ont pris leur savoir-faire parce qu'ils étaient des familles solides, appuyées sur l'évangile. Rien de... Plus je côtoie les jeunes, hein. Avec Laurence, on se le disait, plus on côtoie les jeunes, plus on côtoie les personnes, on se dit, il n'y a qu'une chose qui peut changer les hommes. Une seule chose, Jésus-Christ. Une seule chose, l'évangile, qui peut sortir les gens de leurs difficultés. Le coq, il n'a pas fait de long discours, il a chanté deux fois. Il ne va pas l'imiter. Mais il a chanté deux fois. Ce n'est pas un long discours, hein, mais il a été, vous savez, comme dit Corinthiens, la trompette de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'au son de la trompette de Dieu. Et la trompette de Dieu, elle sonne juste. Hein. La trompette de Dieu, elle ne fait pas de fausses notes. Je ne sais pas s'il y avait des fausses notes ce matin. Ce n'était pas le but d'écouter cela. On était dans la louange. Mais elle sonne juste. Elle sonne juste. Pierre, vous savez, Pierre, ce personnage si bouillant, le meneur, Pierre, le meneur. Pierre, il a entendu dans sa vie des milliers de fois chanter les coqs. Certainement. Des milliers de fois. Mais le jour où ce coq-là a chanté, c'était différent. Alors vous pouvez entendre des centaines de prédications. Des milliers de prédications. Si votre cœur n'est pas ouvert, si votre cœur n'est pas ouvert, il ne servira à rien. C'est comme de l'eau qui coule sur un rocher. Comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Mais le chant du coq ici, il était différent. Quelle prédication du coq, hein, les bien-aimés. Quelle prédication, hein. Il a chanté deux fois. Il a chanté. Réfléchissez-y. Toute la vie d'un homme, son ministère, ont tenu à la fidélité du coq. Parce que Pierre, je vais terminer là-dessus, Pierre est devenu un homme de Dieu fantastique, un missionnaire dans le monde. Eh oui. Et qu'est-ce qui a changé sa vie? Le chant du coq. Le chant du coq. Tout son ministère a tenu à la fidélité de ce coq. Si Pierre avait pu parler un jour avec ce coq, parce qu'il a changé complètement après ses larmes. Imaginez un petit peu, Pierre aurait pu aller trouver le coq et prendre le coq comme ça par le cou et lui dire simplement... Tu sais, le jour où tu as le mieux chanté, c'était le matin, le vendredi de Pâques, là, quand tu as chanté. Et le coq lui aurait répondu, sans doute, ce n'est pas possible, ce jour-là, j'étais enroué, j'ai dû m'y prendre à deux fois. Et vous, donc, voilà, tout est possible, mais c'est de l'humour, évidemment, vous comprenez. Mais ce n'est pas toujours ce que nous pensons. C'est pas toujours quand nous pensons, pardon, que nous chantons le mieux, que nous prêchons le mieux, que nous parlons le mieux, que nous sommes le plus efficaces. Hein. C'est pas là. Hein. Moïse, quand il a été envoyé, il a dit, moi, Seigneur, je ne peux pas aller. Hein. Je n'ai pas parlé, moi. J'ai la langue pesante. J'ai la langue embarrassée. Mais Dieu ne cherche pas des hommes qui parlent bien. Vous savez ça? Dieu cherche des hommes qui parlent juste. C'est différent, hein, ça. Il ne faut pas faire des longs discours. Hein. Du moment que c'est fait humblement, fidèlement, et pas comme ce riche insensé là qui disait « Je mets mes affaires, mon compte en banque, mes greniers, ma maison, ma voiture, mais si, mais là, mais rien ne t'appartient, mon vieux. Rien ne t'appartient. Tout appartient à Dieu. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui est visible appartient à Dieu. Tout est création. Parfois, moi, j'ai une imagination qui trotte dans tous les sens. Parfois, je me dis, quand même, quand le quatrième astronaute qui a marché sur la Lune vient de décéder hier, je crois. Ils ont été sur la Lune avec une technologie à l'époque. Nous avons plus de technologie dans notre téléphone portable aujourd'hui que quand ils ont marché sur la Lune avec la mission Apollo. Donc, mais je me dis, mais cette fusée qui a été construite, fantastique, incroyable. Ils ont été sur la Lune. C'est parti de quels matériaux? Mais c'est parti avec des matériaux qui sont sur la Terre. Du métal, du titane, de la poudre à canon, tout a été créé à partir de ce que Dieu a mis sur la Terre. Nous n'avons rien apporté, nous avons transformé. C'est différent, hein? Même le radium. Tout appartient à Dieu. Quand vous oubliez de prier à table, ou quand vous ne priez pas à table avant de manger, parce que c'est biblique de prier à table avant de manger, il y a des familles où on ne prie pas. Ce que vous avez dans votre assiette, c'est parce que Dieu l'a créé. On a tellement l'habitude d'avoir de l'abondance. L'Africain qui prie, lui, pour son pain, parce qu'il n'en a pas, lui, il sait ce que c'est. Nous avons l'habitude. Nous sommes dans l'abondance, dans des pays riches. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est ça, quoi. Ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Quand nous pensons que nous sommes les plus efficaces, que nous sommes les meilleurs. Dieu ne cherche pas des hommes qui parlent bien. Dieu vous cherche et il veut que vous parliez juste. Faites les choses humblement, fidèlement. Parce que, vous savez, Pierre, il était imbu de sa personne. Hein. Jusqu'à la mort, Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu crois? Jusqu'à la mort, je vais te suivre, moi. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le résultat, hein? Non, il faut faire ça humblement, fidèlement. Que cela nous encourage à être fidèles dans les petites choses. Pas commencer par les grandes choses. Moi, j'ai connu des conversions. On a beaucoup évangélisé dans les réunions de maison et aussi dans des réunions. J'ai beaucoup évangélisé. Et j'espère encore le faire de nombreuses années. Mais on a rencontré des personnes qui se sont converties. Ils auraient tout cassé. Et il y avait un vieux frère qui m'a dit un jour, ceci, il est décédé, il est auprès de ses, il m'a dit, Michel, au début de ma conversion, méfie-toi toujours des feux de paille. Méfie-toi toujours des feux de paille. Par contre, j'en connais qui se convertissent, mais qui sont humbles, qui veulent venir pour apprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui veulent être à l'écoute des anciens, qui écoutent les conseils des plus âgés. Voyez-vous ? Et alors, ils se construisent tout doucement et deviennent des chrétiens solides. Donc humblement, parce que Pierre, lui, non, c'est un fougueux, c'est un marin, Pierre. Vous savez, le travail de la mer, c'est pas n'importe quoi. Hein. Pierre, c'est un marin, il connaît ce que c'est de travailler la nuit, de se lever tôt, d'accrocher les filets, c'était pas comme maintenant avec des palans électriques ou tout ce que vous voulez, hein, à l'époque. Donc Pierre, c'est un homme qui est emporté par son engouement, mais le Seigneur l'a vraiment aidé, et l'a remis à sa place et il l'a utilisé. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est à la portée de chacun de nous. C'est à la portée de chacun de nous. Pierre avait une trop haute estime de soi, hein, c'est pas bon, hein, ça. Une trop haute assurance de lui. Il a été brisé. Mais brisé par amour. Hein. C'est vrai. Hein. Brisé par amour. C'est ce Pierre-là, celui qui a renié que Dieu va utiliser. Et je termine. Plus tard, si vous lisez la Bible, plus tard vous allez voir dans les Actes des apôtres, vous allez retrouver Pierre. Ce même Pierre qui a renié Jésus, nous allons le retrouver dans les Actes des apôtres. Il est à la tête des disciples, encore une fois, à la tête des disciples. Lorsqu'on tire au sort le remplacement de Judas, parce que Judas a été remplacé, c'est Pierre qui mène la danse. C'est Pierre, ce même Pierre. Hein. C'est Pierre dans Actes 2. Le même Pierre qui prêche, et suite à sa prédication, il y a 3000 conversions. Acte 2. Aujourd'hui, il faut 3000 prédications pour une conversion. Là, c'était une conversion pour 3000 conversions. Une prédication pour 3000 conversions. C'est Pierre. C'est le même Pierre, mais transformé, changé. C'est Pierre qui a une place d'honneur dans le Nouveau Testament et qui reçoit une inspiration du Saint-Esprit pour écrire ces petits épîtres-là. 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre. C'est Pierre qui a reçu cette vocation, ce don de la part de Dieu. C'est Pierre qui va mourir crucifié. L'histoire le dit, pas la Bible, mais l'histoire le dit. C'est Pierre qui va mourir crucifié, la tête en bas. Pierre va mourir crucifié, la tête en bas. Il ne va pas vouloir se faire crucifier comme son sauveur. Il s'est senti indigne. Et Pierre, c'est l'histoire qui nous le raconte, est mort crucifié la tête en bas parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme son sauveur. Nous sommes allés visiter une fois une église, mais j'ai oublié l'endroit malheureusement. C'était une église Saint-Pierre, mais pas à Rome. Saint-Pierre, mais pas à Rome. Et il y avait une belle statue magnifique. Il faut s'arrêter devant les chefs-d'œuvre. Une statue de Pierre. Et Pierre avait une croix dans sa main. Très grande statue. Pierre avait une croix. Et cette croix était à l'envers. Pour symboliser sa mort. C'est ce même Pierre, voyez-vous, qui avant que le coq chante, et après que le coq chante, était un homme transformé, complètement renouvelé. Voyez-vous ce que le Seigneur a fait avec Pierre? Et qu'est-ce qu'il a utilisé? Le chant du coq. Alors, mais Pierre, nous, le Seigneur veut utiliser des choses toutes simples pour nous parler, pour réveiller notre conscience. Et j'ai besoin, moi le premier, croyez-le bien, en toute humilité, pour ceux qui me connaissent, en toute humilité, j'ai besoin aussi parfois d'être réveillé dans ma conscience. Parce que parfois on se laisse aller, et le résultat est qu'on est triste dans son âme. On est triste. Les plus beaux moments de ma vie, c'était les moments où j'étais proche de Dieu. Proche de Dieu. Et les moments les plus tristes, c'est quand j'étais loin de lui. Ça, je peux vous confirmer. Nous allons prier ensemble. Levons-nous pour prier. Levons-nous devant l'Éternel. Seigneur, merci pour cette parole puissante, cette parole réconfortante. Seigneur, qui nous enseigne tous les chemins à suivre, Seigneur. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, toi, ce grand Dieu qui a créé toutes choses, que tu utilises la simplicité pour nous parler, Seigneur. Merci de la simplicité de cette communauté. Merci pour, Seigneur, leur engagement, leur fidélité. Qu'ils puissent continuer à progresser, à grandir, à devenir non seulement, Seigneur, en nombre, grand en nombre, mais solide, Seigneur, en qualité, avec des dons. Qu'ils soient au service, Seigneur, de ce peuple, de cette Belgique qui est dans les difficultés spirituelles, comme tous nos pays d'Europe, Seigneur. Je te demande vraiment que tu nous accordes un réveil. Nous passons par la repentance, comme Pierre. Nous devons pleurer parfois sur notre sort, mais Seigneur, tu veux nous utiliser dans notre faiblesse. Merci Seigneur, de ce que tu nous prouves que tu es un Dieu de fidélité, même si nous sommes infidèles. Si nous t'avons parfois renié, si nous avons parfois devant les hommes rigolé avec certaines blagues, histoires qui ne te glorifiaient pas, nous t'en demandons pardon Seigneur. Mais je te prie pour ces personnes qui sont ici présentes, qui n'ont pas fait d'expérience avec toi, nous prenons toute l'autorité dans le nom de Jésus pour dire aux puissances des ténèbres qu'elles ont été vaincues, pour dire aux puissances des ténèbres qu'elles sont perdantes, que toi, Jésus, tu es victorieux, que le Saint-Esprit Tout-Puissant pénètre aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, puisse faire une expérience, la vie est courte, même si nous sommes jeunes, que nous puissions nous présenter devant toi, Seigneur, sauvé par la grâce. Sois loué, sois béni, que cette journée soit une journée qui te glorifie, que cette semaine soit une semaine où tu nous accompagnes dans chaque situation de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci.